Bonjour, le porno en ligne, gratuit et abondant, exerce-t-il une véritable dictature sur les comportements et sur les représentations sexuelles? Est-ce que c'est notamment au porno en ligne qu'on doit la fellation quasi obligatoire dès le collège ou encore la vague non moins obligatoire de ce qu'on appelle l'épilation maillot totale pour les femmes? Telles sont quelques-unes des questions posées par un très intéressant documentaire diffusé cette semaine sur France 2, À quoi rêvent les jeunes filles? Avec nous sur ce plateau, Vidi. Alors, vous êtes l'auteur de ce documentaire. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous avez eu plusieurs vies, puisqu'après avoir été actrice porno, vous êtes maintenant écrivain, réalisatrice, et également chroniqueuse de presse régulière sur le site Metro News. Clarence Edgar-Rosa, vous êtes journaliste à Causette, critique cinéma, Causette dans lequel vous cherchez notamment chaque mois pour chaque numéro des films porno, on va dire, différents à critiquer. Vous nous raconterez un peu ce que c'est qu'un film porno différent. Et vous êtes également blogueuse, le blog s'appelle Poulet érotique. Ariane Picoche, vous êtes rédactrice au site Le Tag Parfait, site spécialisé dans ce qu'on appelle la culture porn, je pense qu'on peut le dire comme ça. Voilà. Alors, à quoi rêvent les jeunes filles, documentaire diffusé cette semaine sur France 2.
Dans la case infrarouge.
Je pense que le plus simple, c'est qu'on envoie tout de suite un extrait qui, je pense, donne l'idée du propos qui est le vôtre, et après quoi, on se demandera ce que vous avez voulu dire.
Les codes du porno ont été pillés par l'ensemble des médias. Ils ont été récupérés par le milieu de la mode, de la publicité, de la musique et même de la télé-réalité. On les retrouve partout, même là où on ne le soupçonne pas. Ils fascinent, ils font vendre, ils représentent les rapports hommes-femmes dans leur forme la plus rétrograde.
Les gens qui crient au porno, qui montrent la femme soumise et ci et ça, j'ai envie de leur dire allumez la télé, quoi. Regardez les pubs. On n'a pas besoin du porno pour avoir l'impression que les femmes doivent être soumises et qu'elles sont complètement objectivisées.
Alors, le propos dominant du film, c'est quoi? C'est de dénoncer le porno majoritaire, le porno mainstream et son côté rétrograde, ou c'est de dédouaner un peu le porno, comme semble le faire l'intervenante à la fin de l'extrait, là, en disant que le plus grave, finalement, c'est pas le porno, mais c'est les récupérations publicitaires des codes du porno.
En fait, le propos du film, c'est d'abord une interrogation. C'est se demander, est-ce que cette génération qui a grandi avec Internet est plus libre ou plus aliénée que les précédentes? C'est une vraie question. C'est une question, il m'a fallu 3 ans pratiquement pour y répondre. Et le propos du film, c'est que la domination masculine, elle a plusieurs visages, qu'elle évolue, mais que finalement, elle reste un peu la même. Alors, elle va s'exprimer aujourd'hui, par exemple, dans un car wash sur de la télé-réalité avec Nabila, et voilà. Elle va s'exprimer aussi dans de la publicité. Elle va s'exprimer dans une certaine forme de pornographie, qui est une pornographie qui est dominante, mais voilà, qui n'est pas la seule, mais qui est quand même dominante. Voilà, elle va s'exprimer dans la plupart des médias. Et la conclusion un petit peu du film, c'est que finalement, avant, la domination masculine passait autrement, c'est-à-dire on expliquait aux femmes être de parfaite fée du logis, et qu'aujourd'hui, on leur explique que la fellation est le ciment du couple, qui est quelque chose qui ne vient pas du porno spécifiquement, qui vient d'un article de Elle pour mémoire.
Il y a eu quand même un entre-deux, parce qu'entre l'image dominante de la fée du logis, le ménage, etc., et aujourd'hui, le porno gratuit sur Internet, il y a eu quand même 68. Il y a eu quand même 68, la libération de la femme, ou l'apparente libération de la femme, j'en sais rien, on n'est pas passé directement de l'un à l'autre.
Le propos du film aussi, c'est que la libération sexuelle à mon sens, était récupérée. C'est un peu comme tout combat politique, comme tout ce qui est subversif, il y a une récupération par le spectacle au sens de Debord. C'est-à-dire, il va y avoir quelque chose d'un petit peu sulfureux au début, il y a la libération sexuelle, on se dit, ouais, c'est super, ça éclate. Il y a aussi l'émergence d'une pornographie féministe, début des années 80, 81, je crois. Il se passe des choses à ce niveau-là, même au niveau des courants féministes dits pro-sexe ou sexe-positifs.
Et puis, alors, c'est quoi les courants féministes pro-sexe?
C'est issu de ce qu'on appelait les sex wars aux États-Unis, c'est-à-dire une scission, pour faire simple, une scission entre les féministes conservatrices opposées qui veulent l'abolition de la prostitution, qui veulent l'abolition de la pornographie, et des féministes qui sont plus ouvertes à ça, qui ont pris la défense des travailleuses du sexe. On le voit aujourd'hui, c'est d'actualité comme débat, et qui sont parties du principe que la pornographie, c'était un média comme un autre, que c'était jamais que le reflet de la société et qu'il y avait moyen de la récupérer et de combattre, de l'investir,
de
combattre la misogynie sur le même terrain et avec les mêmes armes.
D'accord. Et le féminisme pro-sexe, ça commence, vous dites, dès les années 80. Dès les années 80, il y a des féministes qui tentent de produire du porno différent.
Ça a commencé en 80. Le premier film, 80 ou 82, j'ai un doute. Le premier film, c'était Annie Sprinkle avec un film qui s'appelait Deep Inside Annie Sprinkle. Et ensuite, il y a eu en 84 la création de Femmes Productions par Candidat Royal, qui a été la première maison.
Ça, c'est en France ?
Non, ça a été aux États-Unis. Vraiment, c'est aux États-Unis que c'est né. Et c'est arrivé très lentement à la fin des années 90 en Europe. Et là, je dirais, ça explose maintenant, ces 5 dernières années, mais ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Et donc, le propos de tout ça, c'est de dire, finalement, est-ce qu'on n'a pas été récupéré dans l'histoire ? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on prônait, c'est-à-dire finalement une pornographie où on est plus libre, où on a des poils, où on assume notre corps, où la sexualité n'est pas stéréotypée.
On, c'est les féministes pro-sexe. Quand vous dites on, c'est les féministes pro-sexe. D'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ça et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'omniprésence de la sexualité dans tous les médias et qui sont quand même vachement éloignés des messages de libération qu'on pouvait promouvoir. Quand je vois par exemple ces quelques images de publicité ou ce qu'on appelait le porno chic dans la mode, ou quand je vois justement des stars de télé-réalité qui sont juste des caricatures finalement de pornstars des années 90, je m'interroge. Voilà, je me dis...
Non mais attendez, vous faites plus que vous interrogez, vous êtes très en colère.
Non, je suis rarement en colère. Moi, au niveau des émotions, je suis toujours assez comme ça.
Mais ça ne vous met pas en colère. Au nom du combat que vous menez, je veux dire cette récupération, le fait que comme ça
ça m'interroge. Et puis je me pose aussi la question jusqu'à quel point j'ai pas à ma toute petite échelle, mais jusqu'à quel point j'ai pas ma part de responsabilité dans l'affaire, parce qu'on est tous générateurs de normes. Enfin, je réalise des films, donc je dois m'interroger quand je réalise un film sur l'impact éventuel qui peut y avoir, c'est-à-dire même si certains films ne sont pas méchants, même si, je veux dire, dans les films, c'est rarement méchant, hein, de toute façon, mais je peux me poser la question en me disant...
Non, mais on va voir des extraits de vos films tout à l'heure, mais il me semble que dans vos films, justement, ce qui est au centre de votre démarche, c'est de faire du porno différent. Donc, en dépit du fait que c'est au centre de votre démarche, vous dites peut-être que malgré moi, je fais quand même passer dans mes films du modèle dominant, quoi.
Pas à l'heure actuelle, je dirais, mais il faut aussi... Je pense que c'est bien de se remettre en question de temps en temps, et c'est pas... Je suis arrivée dans ce milieu à la fin des années 90, ça fait 16 ans, bien 16 ans,
je crois. En tant que comédienne, au début.
En tant que comédienne, et très rapidement en tant que réalisatrice. J'ai réalisé mon premier film en mai 2000, je crois. Donc vraiment, j'avais fait 3-4 films, j'avais pas énormément tourné, donc très vite...
Et déjà, avec une intention de produire... Autrement.
Oui, mais je pense que je me suis un peu gaufrée au début, hein, faut être honnête, j'avais 19 ans et je pense que mes premiers films ne sont pas brillantissimes et que c'était compliqué à ce moment-là parce qu'on n'était pas beaucoup de réalisatrices et qu'il fallait tâter, il fallait y aller en disant bon, « ok, c'est quoi un porno féministe, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il y a eu quelques antécédents dans les années 80, mais là se dire « putain, il y a tout à réinventer, qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc c'est aussi une remise en question, c'est pas un mea culpa de ma part, hein. Je dis pas « oh là là, mon Dieu, c'est moi qui suis responsable », je dis même pas « c'est le porno qui est responsable », je dis juste soyons vigilants, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une société qui est libérée, et en fait, on ne l'est pas tant que ça. Il y a du sexe partout, mais on parle finalement très peu de plaisir et de désir.
Alors, toutes les deux, vous témoignez dans le film d'Ovilie, on vous voit, on vous entend, vous partagez le constat global qui est le sien, qui est de dire finalement, l'injonction est aujourd'hui différente, mais elle est tout aussi... terrifiante et impérieuse que l'injonction à être une fédulogie dans les années, enfin au XXe siècle, quoi.
Moi, je rejoins tout à fait le constat d'Ovidie. J'ai l'impression qu'on est face à un déplacement de la norme qui est tout aussi problématique, mais qui est peut-être un peu moins visible, parce que sous cette espèce de vernis de sexualité libérée, en réalité, on se rend compte que les injonctions sont tout aussi fortes. Elles sont juste, moins visibles. Et puis, je rejoins aussi Ovidie sur ce qu'elle a dit il y a un instant, à savoir le fait qu'on essaye, enfin, aussi bien elle que moi dans notre travail, on ne rend pas le porno responsable de ce, de ce problème-là. Je pense que c'est un continuum énorme duquel le porno fait simplement partie. Oui. Quand tu dis qu'on a notre part de responsabilité, je pense qu'effectivement, on doit tous se remettre en question rôle qu'on a joué
vous
là-dedans.
Vous, personnellement, pourquoi
moi, j'évolue de la même manière que vous dans une société qui est régie par ces normes-là qui sont assez problématiques.
Moi, en tant que subissant les normes ou moi, en tant que produisant les normes, en tant que journaliste ou blogueuse
en tant qu'individu. De fait, j'évolue dans cette société-là et donc j'intègre ces normes-là et je me bataille contre. Mais c'est une résistance qui est compliquée, donc parfois j'y cède.
Dans votre activité de journaliste et de blogueuse,
Dans mon métier, j'essaye vraiment pour le coup je suis en résistance totale, donc je lutte vraiment contre ça. C'est pour ça notamment que j'essaye de parler d'un porno différent, parce qu'à mon avis, c'est un objet culturel et que ce serait dommage de lui tourner le dos, alors même qu'il y a des alternatives qui existent et qui sont intéressantes.
Un objet culturel, vous parlez du porno en général.
Ouais. Hein, voilà. C'est pour ça que les chroniques porno, le porno du mois que je fais dans Cosette est dans la rubrique culture. Et pour moi, c'était très important.
Allez, vous avez insisté là-dessus.
Ah oui, j'ai insisté. Pour moi, ça me semblait évident. Je ne savais pas où on pouvait le mettre d'autre, de toute façon.
Vous avez insisté là-dessus, ça veut dire que tout le monde n'était pas d'accord dans la rédaction de Cosette.
Non, mais on s'est tous posé la question. Il y a eu un micro débat quand même, évidemment.
Bon,
on n'avait jamais. Il y avait des résistances, bien sûr. Oui, non, évidemment. Non, mais disons qu'on n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais parlé de porno dans la culture, c'est-à-dire en tant que prescripteur. Ce qui est quand même pas rien. Donc forcément, on en a discuté et voilà, et c'était très nouveau. Donc,
En tant que prescripteur, oui, c'est ça.
Les rubriques culture, fatalement, on donne des pistes.
Il y a eu de fortes oppositions ?
Non, il n'y a pas eu de fortes oppositions, il y a eu un micro-débat.
Il y a eu un micro-débat.
Comme je le disais. Ne me faites pas dire ce que je dis.
Vous savez, moi, je creuse. Hein,
je vois bien.
Voilà, micro-débat. Sur le constat, vous êtes d'accord, Ariane ?
Oui, je pense que je rejoins mes deux collaboratrices, on va dire. Après, je pense qu'une révolution sexuelle, une révolution féminine, d'ailleurs, tu le dis dans le documentaire, ça prend pas 40 ans quand ça a été des siècles, quand les femmes ont été pendant des siècles sous domination masculine. Donc, voilà, ça prend du temps. Après, le porno n'est pas responsable de tous les maux. Je pense que c'est un miroir grossissant de la société. On peut pas reprocher au porno d'être machiste et ne pas se dire... Oui, mais en fait, c'est peut-être la société à la base qui est machiste. Je pense que c'est important de mettre en valeur, parce qu'on a, on a besoin de trouver un coupable. Le porno est quand même souvent pointé du doigt. Mais quand je vois la presse féminine, en effet, les conseils, comment faire une bonne fellation, épilez-vous de telle manière.
Le papier culte de Elle, la fellation, c'est Simon Ducoup qui est...
Parce que la nuance, finalement, c'est que le porno ne nous dit pas de faire quoi que ce soit. Alors qu'un magazine féminin qui vous dit, contentez... Ouais. Il ne dit rien, le porno. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence, qu'il n'y a pas des codes qui sont repris derrière, mais il ne nous donne pas d'ordre, le porno. Regarde un film porno, c'est un support masturbatoire.
On est au cœur du débat. Il ne donne pas d'ordre explicite.
Pas explicite.
Mais est-ce que les ordres... Enfin, les ordres, les injonctions implicites...
Il véhicule des valeurs, mais qui sont pour moi issues de la société actuelle.
Mais vous parleriez de valeurs et pas d'injonctions. Vous ne pensez pas que le fait que, comme ça, tous les films porno se ressemblent, enfin avec des nuances, mais qu'il y a une espèce de porno mainstream où les modèles sont toujours les mêmes, où le scénario de l'acte sexuel est toujours le même à quelques variantes près, vous ne pensez pas qu'au total, tout ça, ça forme une injonction?
Mais finalement, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que les gens regardent vraiment. Je pense que le porno mainstream, c'est le dessus de l'iceberg. Et derrière, on a chacun un porno, des fantasmes, voilà. Pour une personne, il y a un type de fantasme.
Oui, c'est
moi,
vrai.
Derrière, par exemple, je suis plus attirée par du porno amateur qui se rapproche plus de la réalité. Mmh. Je vais plus aller fouiller.
Et par exemple, si on prend un site comme YouPorn, qui est aujourd'hui le centre mondial du porno mondialisé, vous diriez que ce qui domine, c'est plutôt le modèle unique d'une sexualité qui est donnée, ou ce qui domine, c'est plutôt les variantes, puisque sur YouPorn, vous avez des catégories où vous pouvez effectivement aller choisir de l'amateur, du trio, de la sodomie, des rousses, des blondes, des épilées, des pas épilées. Enfin, je veux dire, il y a des catégories comme ça. C'est vrai, on dit le porno mainstream, ça, c'est une injonction. Mais en même temps, quand on regarde YouPorn, c'est plus compliqué.
YouPorn, c'est encore un cas à part. Juste pour terminer sur cette histoire d'injonction et d'influence, c'est vrai qu'il y a un distinguo. Quand on prend, par exemple, certaines publicités, il y a un ordre. Je pense, par exemple, une publicité, je crois que c'était l'été dernier, la publicité pour un déodorant. Si tu transpires, t'es pas sexy. Et j'ai trouvé que le message était super fort parce qu'on emploie le tutoiement. Si toi, tu transpires, tu n'es pas sexy. Donc là, on est dans quelque chose qui relève de l'ordre, qui est assez violent et qui est justement propre à la publicité et au magazine féminin. C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans le porno, mais dans le porno, il y a une influence qui est détournée dans le sens où effectivement la pornographie, c'est juste le reflet d'une société. La pornographie qu'on va avoir, qui sera majoritaire, qui est aujourd'hui une pornographie américanisée, on va dire. YouPorn, par exemple, cette pornographie-là reflète une société qui elle-même est machiste. C'est juste un reflet très exacerbé. C'est pas la même pornographie, par exemple, qu'on peut avoir au Japon, qui est très différente. C'est pas la même pornographie qu'on a pu avoir à une époque au Danemark, où les rapports hommes-femmes sont encore aussi différents et où la pornographie était beaucoup plus représentait plus des rapports égalitaires. Mais effectivement, venons-en à YouPorn, puisque c'est ça votre question. YouPorn, c'est quand même un truc un petit peu à part. YouPorn, ça appartient à un tout. Ça appartient à une gigantesque multinationale qui aujourd'hui a le monopole de la pornographie dans le monde. La plupart des sites de piratage, enfin de streaming comme ça, qui existent, appartiennent tous à une seule et même multinationale. Donc c'est un petit peu le Monsanto du porno, quoi. C'est la World Company du porno. Et effectivement, c'est comme toute multinationale, en général, c'est rarement des messages égalitaires et libertaires qui sont diffusés. Alors c'est vrai que sur ces sites-là, on catégorise. En fait, finalement, on a pendant très longtemps reproché au porno une morcellisation des corps. Et je me souviens, quand je disais ça il y a 10 ans ou 15 ans, je me disais, mais bon, faut quand même pas pousser, c'est pas tout à fait vrai. Et là, aujourd'hui, finalement, on y arrive à cette morcellisation du corps et à cette catégorisation des individus.
C'est pas le corps qui est catégorisé, c'est les pratiques.
Si, il y a les catégories big tits, big machin, enfin, je sais pas.
Vous l'avez dit vous-même, rose blonde.
Big tits, gros sein.
On cherche plus une star aujourd'hui. Enfin, c'est rare, on cherche plus une star. On va chercher, on va taper anal, blonde, teen, par exemple. Enfin, j'en sais rien, c'est pas ces tags, peut-être. Je pense qu'il y a plus compliqué à chercher comme tag et plus fouillé.
Et donc, sur cette catégorisation, vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est bien parce que finalement.
Bah non, c'est la disparition de l'individu. Moi, j'en parle parfois avec les actrices, elles sont assez. Assez attristée de voir qu'elles ne sont plus présentées que comme des catégories ou qu'on peut les accepter. Et surtout, parfois, dans les descriptifs ou les commentaires de vidéos, il y a des termes qui sont relativement humiliants. C'est-à-dire, elles vont participer parfois à un film plutôt clean, avec un titre assez sobre, et elles vont se retrouver avec une description hyper ordurière de leur personne. Donc, c'est vrai que ce système du tag est parfois extrêmement rabaissant et prend peu en compte l'individu. Ouais.
Alors, on parle de normes depuis le début de l'émission, mais on en parle en général. Alors, ces normes sont très précises et elles sont très précisément nommé dans votre film, un petit échantillon.
Qu'il y a une influence de la pornographie sur les pratiques ?
Là, oui. Clairement. Les jeunes filles, aujourd'hui, elles, en moyenne, elles font toujours l'amour pour la première fois à 17 ans. Mais avant ça, elles font plein de choses. Et la première fois, il y en a plein qui se font la totale. Ce que je trouve assez intéressant. Parce que ça, là, pour le coup, ça provient vraiment d'une imagerie porno. Ouais.
La fellation, ça a été très mal vu pendant longtemps. Maintenant, c'est obligatoire. Je pense qu'une fille qui dit non, moi je suce pas, elle passe pour une prude ou je sais pas quoi. Ça, c'est des choses qui pour moi, qu'on n'avait pas le droit de faire avant et qu'on est obligé de faire maintenant. Donc c'est un déplacement de la norme en fait. Mais par contre, ne pas le faire, là, ça devient problématique aussi. Il y a des choses comme par exemple la sodomie qui est en train de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait bien accepté. Les gens savent que certaines personnes le font, mais c'est pas encore une norme.
Et la bisexualité ? Est-ce que la bisexualité, c'est. Ces tendances ou est-ce que la bisexualité s'est tolérée à partir du moment où on a son petit copain à proximité ?
Oui, il y a de ça, oui, clairement. La bisexualité, c'est cool parce que c'est un fantasme d'homme, bien sûr. Et il y a plein de jeunes femmes qui se laissent tenter par une expérience homosexuelle pour faire plaisir ou parce que ça les rend sexuellement intéressantes aux yeux des hommes.
Pour autant, la société n'est pas non plus prête à accepter une fille qui assume parfaitement le fait qu'elle couche régulièrement avec des filles. Que de temps en temps, ça lui arrivait une fois de coucher avec une amie quand elle était bourrée. Bon, ça passe. C'est un peu excitant. Ça fait comme dans tous ces films de porn. Enfin, je pense que par contre, la société est pas prête à accepter une fille qui dit bah oui, je couche avec des meufs, je couche aussi avec des mecs. En fait, je couche avec ce que j'ai envie. Je m'intéresse pas au genre. Je m'intéresse juste à la personnalité. Ça, c'est un discours qui ne passe toujours pas. Hein.
Alors, depuis le début de l'émission, on se demande finalement qu'est-ce qui édicte les normes. Est-ce que c'est la société qui est première et finalement le porno n'est qu'un reflet, ou est-ce que le porno a quand même une responsabilité spécifique? Et j'ai l'impression que toutes les trois, vous êtes dans une espèce quand même de retrait par rapport à une éventuelle accusation qui pourrait être portée contre le porno en disant
c'est
non.
Alors,
non, mais vous dites injonction dans le film, mais là sur le plateau, c'est plutôt influence.
Non, c'est pas ça. Ce serait beaucoup trop simpliste de dire d'accuser la pornographie. Vous en avez envie, mais on le fera pas, je crois.
Mais par exemple, la fellation. La dictature de la fellation. La dictature, c'est bien le porno, ça.
L'article La fellation, sinon du couple, c'est
vrai,
elle.
Okay. Oui, c'est vrai.
C'était elle.
C'est vrai. mais la présentation de la fellation, je veux dire, dans les pubs, il n'y a pas encore de représentation de la fellation.
Ah, bah si, alors par contre, je me permets de vous contredire. Il y a tout le temps des pubs. La pub Cornetto, la pub Cardinier, la marque de burger américaine.
Alors la pub Cornetto, je ne sais pas si Adèle Bello va trouver la pub Cornetto, je ne l'ai pas en tête.
La pub il y a quelques années.
La pub pour les burgers où ils ont sorti un nouveau hot dog et la nana est clairement en train, je veux dire, de l'échouiller un hot dog quand même. Elle s'en met sur les seins, enfin bon, c'est complètement
Mais dans la suggestion.
Non, mais là, on est au-delà de la suggestion, c'est-à-dire que non, mais franchement, c'est vraiment, enfin, on est vraiment au-delà de la suggestion, donc non, ça, ces codes-là et ces visuels de pornographiques, ils ont complètement investi la pub, en l'occurrence, donc je pense que l'exemple est mal choisi.
En fait, c'est presque pire ce côté hypocrite, justement. Au moins, le porno, j'ai envie de dire, on voit une fellation, on sait que c'est une fellation.
Bien sûr.
Il n'y a pas ce côté lavage de cerveau, voilà, alors qu'on est entouré en permanence, en effet, que ce soit dans le métro, d'affiches, je me rappelle pour des sites de rencontres aussi, on voit toujours une femme mise en avant dans une tenue sexy. Voilà, enfin, on est entouré de ça, et justement, ça passe en douceur comme ça.
Pensez que la suggestion est pire, c'est-à-dire que la suggestion est plus injonctive, si j'ose dire, que la plus conditionnante. Que la monstration crue et...
Donc, si on n'y fait pas attention, on ne l'identifie pas.
Vous êtes d'accord avec ça, Olivier ?
Moi, je serais assez d'accord, oui, effectivement. Ça passe mieux. On peut le voir, par exemple, avec un truc tout bête, avec les sextoys. Moi, je trouve ça très bien, des sextoys, j'en ai. Je ne fais pas le procès des sextoys. Mais je me souviens quand c'est arrivé, c'était à peu près en 2004-2005, la grande vague des sextoys. Bon, ces sextoys-là, ils étaient déjà présents dans le porno, ils étaient déjà présents dans les sex shops, ils étaient déjà présents partout. Et puis, Sonia Riquet, elle a dit, c'est formidable, je vais vendre des sextoys. Et puis, la presse féminine a dit, oh, c'est génial, les sextoys. Et puis, Sex in the City, elles ont commencé à parler du fameux rabbit qui tourne et qui vibre en même temps. Et là, tout le monde a voulu avoir son rabbit. Et pour le coup, l'explosion du sextoy, c'est quelque chose qui est venu typiquement de la presse féminine ou de Sex in the City ou de Sonia Riquel. C'est venu de caution. Ça n'est pas venu du sex shop, ça n'est pas venu de la pornographie. C'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'au final, le sextoy, c'est très bien que ce soit arrivé dans les... Bon, bref, moi, je trouve ça très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'avaient jamais eu d'orgasme, qui ont eu leur premier orgasme grâce au vibromasseur. Donc, je trouve ça très bien. Je ne fais pas le procès du sextoy, encore une fois. Mais vraiment, ce sont ces cautions-là qui sont plus prescriptrices. Voilà.
Alors, YouPorn, c'est du porno, mais YouPorn, c'est aussi Internet. Donc, on est obligé de s'interroger sur le rôle du média Internet dans le fait que ces modèles se répandent comme ça. Alors, je voudrais qu'on en parle en prenant pour support, pour le coup, une séquence d'un film qui est actuellement diffusé sur Netflix, qui s'appelle Hot Girls Wanted, donc qui est un documentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu toutes les trois.
Pas
oui,
encore.
Pas encore, mais Clarence est...
Non, moi, je ne l'ai pas vu.
Clarence l'a vu, alors on va voir un extrait. Donc, ça raconte un peu comment des toutes jeunes filles, des toutes jeunes amatrices, 18-19 ans, arrivent dans le domaine du porno et comment ça se passe pour elle à leur arrivée. On écoute un premier extrême.
I wasn't even born whenever the internet came out. Without the internet, I probably would have just looked for an out-of-state job, go to school. I was actually going to go to Texas State after high school and cheer for Texas State. But I chose a different path.
We're free right now. The world is in our hands.
We practically do whatever we want to do.
Dude, ever since I came here, it's been about me. Do I want to be in my parents' shoes when I'm their age? Like,
yeah.
No. I don't want to have, I didn't want to, I don't want to go to college meet someone in college, marry them, stay in my hometown, have a bunch of kids,
and live there happily ever
after.
And
then die there. What? I've done so much shit here. More than I've ever done in my entire life. Chilled in penthouses, been in Lamborghinis, rode on street bikes, did all the shit that I've ever wanted to do. I'm like, yo, it's all my shit. It's all me now. Like, here I go. Like, I'm trying to be famous, so gotta do what you gotta do.
Are you kidding me? I make $900 in 5 hours. Then I'm gonna go home and make $825 an hour? No.
Alors là, on ne parle pas des représentations elles-mêmes, on parle du média Internet en tant que tel, ce média qui à la fois a répandu le porno dans tous les foyers de manière libre et gratuite, et qui en même temps a permis à ces filles de contacter des producteurs très facilement, a ouvert un marché. Quel regard vous portez-vous sur le rôle d'Internet, vous qui avez commencé avant Internet?
À l'époque de la VHS.
Lointaine de la VHS. Mmh.
Le principal problème que tout ça me pose, c'est la question du droit à l'oubli. Le problème, c'est qu'il y a certaines filles qui se lancent là-dedans, qui n'ont pas forcément conscience de la circulation de l'image, ni de la violence du regard social. Et c'est juste ça, moi, qui me chagrine. Parce qu'en général, au moment où elles ont leur expérience dans le porno, ça se passe bien, elles sont contentes, elles rigolent bien. Et après, elles se rendent compte que dans les jours qui suivent, il y a une circulation de leurs vidéos qui est énorme. Je pense par exemple à... Il y a quelques mois, il y avait une fille qui était serveuse à Troyes. Sa vidéo a circulé, mais l'autre jour, je me suis connectée. Je crois que c'était à plusieurs millions de vues. C'était colossal. Donc, autant vous dire qu'à Troyes et dans la région, et toute sa famille, ses amis, et toutes les personnes qui pouvaient la croiser dans la rue, tout le monde était au courant, et que donc, du coup, sa vie était devenue juste un cauchemar.
Alors là,
donc, il y a une circulation de l'image et, dont on n'a pas forcément conscience au moment où on tourne. Et il y a pas mal de filles, d'anciennes collègues avec qui j'étais amie à l'époque où on tournait, et qui me disent « si j'avais su qu'aujourd'hui, mon image serait circulerait comme ça, accessible aux mineurs, sans aucune, et que l'image serait volée surtout, et qu'elle serait partagée à des centaines de milliers ou à des millions de personnes, je ne l'aurais pas fait. »
Mais vous pensez qu'on peut encore aujourd'hui dire, en 2015, que les filles n'ont pas conscience? Parce que quand vous parlez de cette serveuse à Troyes, je pense que vous parlez d'un site comme Jackie et Michel, qui est l'espèce de YouPorn français, bien franchouillard, bien gaulois, etc., dans lequel les filles qui jouent sont toujours localisées. On dit toujours c'est Machinette de Liévin ou c'est Bidulette de Saint-Brieuc. Et donc, effectivement, on se dit, mais comment elles font après pour. Et surtout, on a du mal à croire qu'elles puissent ne pas être conscientes, puisqu'on est là quand même dans un système qui fonctionne depuis plusieurs années et dont on a pu commencer à entrevoir les effets.
Très sincèrement, au-delà d'Internet, tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'a pas conscience du problème.
Au-delà d'Internet, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire, même avant Internet, même le simple fait d'exercer cette profession, quand on ne l'a pas fait et quand on ne s'est pas pris en pleine poire la violence du regard social, on ne peut pas imaginer un quart de seconde ce que c'est. Je le sais parce que moi-même, voilà, je vois, ça fait 15 ans que je réalise, ça fait 13 ans que je suis publiée, etc., etc. Et puis quand j'arrive quelque part, c'est l'actrice porno. Donc on voit bien que c'est une étiquette qui est absolument indélébile.
Parce que vous étiez une star, donc c'est...
Oui, mais j'étais réalisatrice dès le début.
Oui, c'est vrai.
Et réalisatrice bankable. Mmh. Par ailleurs, j'étais pas réalisatrice à Matt. Voilà, j'étais réalisatrice. Je commençais chez Dorsel comme réalisatrice, donc c'était quelque chose qui circulait. Et j'ai plus, je pense, marqué l'histoire du porno par mes réalisations que par mes prestations d'actrice qui valait ce qu'elle valait.
On ne se rend pas compte.
Tant qu'on n'a pas eu cette expérience-là de la stigmatisation, des gens qui nous rejettent, du banquier qui tout à coup veut nous fermer notre compte en banque. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je connais des filles qui l'ont vécu. Des parents qui ne veulent plus parler, des gens qui nous insultent dans la rue, des gens qui ne veulent pas nous louer leur appartement. Tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas s'en rendre compte.
Après, sur Jackie et Michel, on voit de temps en temps des filles qui reviennent pour leur deuxième, leur troisième, quatrième vidéo, et on leur demande, alors, ça s'est bien passé, ta première vidéo? Ah ouais, super cool, on me reconnaît dans la rue, je suis contente.
Après, Je les connais pas, ces filles-là, donc je vais pas m'exprimer sur machine qui tourne. Bah non, c'est des filles que j'ai jamais rencontrées en vrai. Donc je vais pas m'exprimer pour elles. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal de filles qui commencent, qui trouvent ça très sympathique, et une fois qu'elles sont cramées, bah qu'est-ce qu'elles font? Bah se disent, bah on va continuer. Je parle pas spécifiquement de ces filles-là, je parle d'autres filles qui après ont continué dans le métier ou qui sont revenues dans le métier du X parce que finalement toutes les autres portes se ferment à elles.
Et d'ailleurs, c'est ce que montre ce film, ce documentaire américain, Hot Girls Wanted. Ça montre bien que, au bout de 3 mois, c'est très très difficile ensuite d'en sortir pour faire autre chose.
Qu'on ait fait un film ou qu'on en ait fait 100, pour les gens, c'est la même chose. De toute façon, les gens se servent de ça comme arme pour nous discréditer.
Sur le rôle d'Internet, sur le fait qu'on voit, par exemple, là, comment Internet change des vies, enfin, je veux dire, fait basculer des vies. La première fille qu'on voit, qui dit, moi, je voulais faire des études, c'était plutôt vers ça que je me destinais, et puis, ça a été tellement facile.
Ça me fait penser à un passage du film où on parle justement de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux. Disons que ça donne l'impression que certaines portes sont plus ouvertes, sont plus accessibles, etc.
Bah, c'est pas une impression, c'est vrai.
Sais pas si c'est vrai, parce qu'au fond, ces portes-là, elles étaient déjà ouvertes avant, c'est juste qu'elles étaient moins faciles d'accès, j'ai l'impression.
Bah ouais.
Je sais pas si tu m'en
il fallait aller les chercher, il fallait aller Dorcel, j'en sais rien, moi, il fallait aller trouver Marc Dorcel, aller physiquement chez.
Surtout, on n'a plus besoin de Dorcel pour faire du porno, on peut diffuser. C'est sa vidéo tout seul.
Bien sûr.
Donc, mais il y a plusieurs choses. C'est aussi, on pourrait parler aussi de la starification de certaines porn stars qui sont souvent des boys next door et girls next door. Donc des gens qui nous ressemblent. Si on parle de James Dean que tu évoques dans le documentaire,
James Dean avec deux œufs. Hein.
Oui, voilà. et c'est Internet a changé ça aussi. C'est que il y a donc des gens qui ressemblent un peu plus aux vrais gens, qui se servent des réseaux sociaux comme nous, qui ont l'air, qui ont un langage, des codes, qui font des blagues, voilà, qui se servent vraiment de Twitter, de Facebook pour se créer un personnage et qui nous ressemblent. Donc je pense qu'il y a ça d'un côté, il y a l'accessibilité, évidemment, Internet, c'est autant l'accessibilité facilité pour le spectateur que pour celui qui veut produire ses vidéos. Et tout ça fait, ça crée ce genre de personnage qui se lance du jour au lendemain.
Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que sur Internet, la girl next door est devenue elle aussi une norme? C'est-à-dire qu'à la norme de l'actrice porno pro ou de l'acteur porno pro a succédé mon voisin, ma voisine.
Les deux cohabitent. Après, je pense que notre génération est pas mal touchée par ces personnes qui leur ressemblent.
Touchée?
Touchée. S'identifie, finalement. On s'identifie quand même, comme dans le cinéma traditionnel, on s'identifie, on se retrouve plus et on se dit surtout, cette personne me ressemble. Souvent, d'ailleurs, moi, je peux voir avec le tag parfait, les tags, les pratiques qui intéressent les gens sont plutôt proches du réel, de choses réalisables. Donc il y a ce truc de se dire, on regarde du porno, mais qui pourrait finalement dans la vraie vie vraiment se produire. On n'est plus tant dans le fantasme éloigné de la réalité. Ça va être les tags threesome ou lesbienne, etc.
Threesome, si vous pouvez traduire.
C'est un plan à trois.
Ouais.
C'est évidemment dans la vraie vie, ça se produit pas tous les jours, mais c'est possible et ça marche hyper bien.
Alors attendez, le plan à trois, vous le classez dans le réalisable ou dans le fantasmatique?
Dans le réalisable.
Dans le réalisable.
Et c'est finalement, ce qui fonctionne de plus en plus pour ma génération, c'est des pratiques qui seraient à mi-chemin entre le fantasme et la réalité. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant.
Et ça vous paraît nouveau? Le fait que, comme ça, on vous montre des choses qui sont à mi-chemin entre le fantasme et la réalité.
Longtemps, le porno, d'ailleurs, c'est la vision que beaucoup de gens en gardent. Les gens qui ne regardent pas forcément de porno ou des générations plus... des générations plus âgées, justement, vont regarder ce porno-là. Il y a... Ça y est, je sais plus ce que je veux dire. Le porno mainstream, c'était ça. Le porno mainstream, le porno américain à la base, c'est des femmes refaites, c'est des superwoman et des superman. Donc ça existe toujours, évidemment. Mais en tout cas, la jeune génération, en tout cas, c'est ce que je constate, penche plus vers des personnes qui leur ressemblent, auxquelles ils peuvent s'identifier.
Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Sur mon voisin, ma voisine.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un engouement, il y a un attrait justement pour une jeune génération, pour des girls next door et tout ça, alors que dans les médias, plus généraliste, on a l'impression qu'il y a comme un train de retard. C'est-à-dire vraiment, si on regarde la télé-réalité, on a, mais ce que je disais tout à l'heure, on a des caricatures de pansards des années 90 avec les seins refaits, les machins, les cheveux peroxydés et tout le bazar. Et même... même, je sais pas, je sais plus comment elle s'appelait, la nana de la roue de la fortune, mais enfin, je veux dire, il y avait une grande blonde qui tournait les lettres et que j'aurais bien vu en couve de Playboy. Mais voilà, j'ai l'impression que ces codes-là, qui sont très caricaturaux, ils sont aujourd'hui très présents dans les médias généralistes, alors que les jeunes générations qui, elles, regardent du porno aujourd'hui sont en train de passer à autre chose, parce que je pense que ça ne leur parle pas spécialement.
Ouais, ouais. Ce qui est un peu étrange d'ailleurs, ce train de retard, parce qu'habituellement ils sont plutôt habiles à épouser les modèles dominants du moment, et plutôt réactifs et plutôt rapides. Donc,
Après, maintenant, ce porno-là aussi,
Adèle Bello l'a trouvé.
Mais voilà, non, mais
charmante au demeurant, hein, on n'est pas là pour...
non, mais oui, bien sûr, mais elle... pourrait potentiellement...
On n'est pas dans la voisine.
On n'est pas dans la voisine.
C'est pas pour me moquer d'elle que je dis ça. Elle est peut-être très sympa, hein, mais elle pourrait potentiellement être sur une jaquette d'un film de Dorcel.
C'est clairement les codes de la bimbo refaite du porno US. Quoi. Mm-hmm. Mais qui est plutôt le porno d'hier. En tout cas, je parle de ma génération. On se retrouve plus là-dedans. Et si je peux revenir juste sur ce que tu disais sur le droit à l'oubli tout à l'heure, parce que, donc ces jeunes qui se lancent dans le porno, il y a aussi un phénomène qui apparaît et qui va contrebalancer ces carrières dans le porno pur et dur, c'est le phénomène des camgirls, et je trouve ça intéressant.
Les camgirls, alors.
Ouais, camgirls et camboys, d'ailleurs. Donc des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont, via webcam, faire un show, en fait. C'est un peu l'équivalent digital du peep show de Pigalle. Et il y a ce droit à l'oubli parce qu'on est dans le live, on est dans la prestation du moment. Et bon, évidemment, il y a toujours des gens qui peuvent capturer la vidéo s'ils veulent, mais il y a quand même, c'est une autre façon de faire. J'ai l'impression que il y a quand même ça qui se pose en alternative par rapport aux carrières porno, vraiment dans le porno traditionnel.
Comment ça se passe? J'ai aucune idée, par exemple, comment ça se passe sur des sites comme YouPorn ou Jackie et Michel si une comédienne veut faire retirer une vidéo. Ou un comédien d'ailleurs, ils peuvent le faire sur simple demande.
Sur Jackie et Michel, j'en sais rien parce que c'est encore autre chose, c'est pas du piratage, Jackie et Michel. Alors que YouPorn, c'est une grosse majorité de piratage. Il n'y a pas que, mais c'est une grosse majorité.
Une grosse majorité de piratage, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est des vidéos qui sont diffusées sans l'accord ni du producteur, ni des acteurs, ni quoi que ce soit. Donc c'est des vidéos volées, faut être clair.
Et ils tentent pas de faire retirer?
Alors, quand on essaie de faire retirer, moi, je sais, j'essaie parfois, il y a même des vidéos dont j'ai les droits, même en tant que productrice ou en tant que créa. Et quand j'envoie ce qu'ils appellent un DMCA, c'est-à-dire c'est un long formulaire, c'est-à-dire quand on est une personne lambda, on ne peut pas faire retirer une vidéo. Il faut être une société, il faut prouver qu'on a les droits et tout ça. Et même en envoyant ça, Tintin et Milou, ils s'en fichent complètement.
De toute façon, même si elle est supprimée, elle sera...
De toute façon, elle se retrouvera ailleurs.
Deux jours plus tard,
mais ils s'en fichent.
C'est éternel problème.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'on peut rêver d'un autre porno? D'un porno différent, d'un porno éthique, d'un porno... Je sais pas comment dire, d'ailleurs.
Alternatif.
Un alter porno.
Oui, alter porno. Je sais pas.
Un alter porno.
On peut en rêver, il existe déjà, surtout.
Alors, on va essayer de voir si c'est possible, et quel il pourrait être. Et pour le voir, je pense qu'on pourrait commencer par voir ce qui pourrait être un contre-modèle de cet alter porno. Alors, c'est encore une scène de ce documentaire de Netflix, là, Hot Girls Wanted. Donc, on va assister au making-of... du tournage d'un film, donc avec une jeune amatrice qui est là, 18-19 ans, elle arrive et on lui explique la scène qu'elle va tourner, en quoi va consister son rôle.
Ava, Tony, Ava.
Hi.
This is called virgin manipulations.
Yeah, the girl is going away to college and she's still a virgin. And I am the real good friend of the family that is... looking to take advantage of that.
Be quiet.
It's okay.
Hanging out.
Right?
Taking my surroundings.
So, Tone, my main line for you is, I've known you since you were little. And her main line is, well, no, I've never looked at you that way because I consider you like my uncle. And... you kind of, without even getting a yes, you kind of almost start to, keep going with it,
mm-hmm.
And then, eventually you can just tell her, you know what, just kind of like move over. You kind of just start taking them off. Mm-hmm. You know what I mean? It's not, you never even really got that full yes, but yes. You've been kind of giving little yeses mm-hmm. to the big yes. The little sales technique.
So just stay right there, where you're going to be sitting when you approach her.
And here's the key point. You're never, like, fully engaged into it.
Yeah.
This is kind of weird. All right, cool. So let's do it.
It's starting to burn.
Yeah.
Alors, je vous ai vu accablé.
Ouais, j'ai envie de dire culture du viol, hein. C'est le premier terme qui me vient à l'esprit, culture du viol.
On a un problème de consentement là quand même, sur cette séquence.
Il y a un petit souci là. Oui.
Qu'est-ce qui est plus gênant ? Il y a clairement un problème de consentement, mais qu'est-ce qui est plus gênant ? C'est de voir qu'on va lui faire jouer un rôle dans le film de fille non consentante, ou c'est de voir qu'elle-même, la comédienne, sur le plateau,
elle a l'air totalement...
Vous voyez, parce que c'est deux choses différentes quand même.
Oui.
Son consentement sur le plateau et le rôle qu'on va lui faire jouer dans le film, apparemment.
Oui, c'est deux choses différentes.
Qu'est-ce qui vous gêne le plus ?
Elle est consentante, là, en tant qu'actrice. Elle n'est pas là.
Enfin, elle est consentante. Enfin,
elle n'est pas ravie d'être là.
Après, c'est difficile de se prononcer parce qu'on n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas comment ça. C'est un montage, on ne sait pas. Mmh. Mais clairement, moi, ce qui me choque le plus, là, c'est la mise en scène de la chose.
Du scénario.
C'est le scénario. C'est pour ça que je n'ai pas dit viol, j'ai dit culture du viol. Voilà.
Non, parce que si on essaye de définir ce que pourrait être le contraire de ça, c'est-à-dire un alter porno, comme on disait tout à l'heure, ce qui est le plus important, c'est quoi ? C'est d'améliorer les conditions de tournage, les conditions dans lesquelles travaillent les comédiens et les comédiennes, ou c'est le scénario final, du produit fini ? Parce que ce n'est pas la même chose.
Non, ce n'est pas du tout la même chose, mais les deux sont importants. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'il y ait un respect des personnes qui viennent travailler sur place et qu'aucune actrice ne se sente forcée de faire quoi que ce soit parce qu'on lui explique qu'elle sera un petit peu payée plus si elle accepte ci ou ça. Enfin, il faut vraiment que... Voilà. Donc
c'est le cas aujourd'hui, ça, sur beaucoup de tournages.
En fait, les pratiques ne sont pas payées, un truc tout bête, mais une scène vaginale ne va pas être payée le même prix qu'une scène anale. Une scène à deux ne va pas être payée le même prix qu'à trois. Il n'y a jamais d'obligation. On ne va jamais dire à une actrice « je t'oblige à faire une scène de sodomie aujourd'hui ». Elle a le choix de dire oui, elle a le choix de dire non, elle a le choix de travailler ou de ne pas travailler. Mais c'est plus pernicieux que ça. C'est-à-dire, elle a quand même un loyer à payer à la fin du mois.
Bien sûr. Elle sait
que si elle refuse telle ou telle pratique ou si elle sait que si elle impose le préservatif, elle aura moins de boulot, personne ne va lui mettre un flingue sur la tempe. « Vas-y, tourne !» Mais elle sait bien que la majorité des productions vont lui demander quand même de tourner des scènes anales sans préservatif.
Mais alors, ce que vous préconiseriez-vous c'est quoi ? C'est que juste que les choses soient dites clairement au départ, c'est-à-dire que clairement au départ dans le contrat on dise il y aura telle ou telle pratique, ce sera payé tant ou tant, ou est-ce que ça pourrait aller plus loin
parce que même sur ces tournages-là, en général, c'est fixé. Ce tournage-là, j'en sais rien, mais sur les tournages pro, c'est fixé avant.
Alors,
évidemment,
qu'est-ce qui
le tarif.
Qu'est-ce qui te loche ? Est-ce que le vaginal devrait être payé autant que l'anal ? Enfin, est-ce que l'anal devrait être payé autant que le vaginal ? Non, mais c'est une vraie question. Vous dites.
Je pense que. Il y a une minorité de filles qui sont à l'aise avec ça, qui ont des facilités avec ça, parce que ça fait partie de leur érotisme, parce qu'elles sont à l'aise aussi avec l'image que ça leur renvoie. C'est aussi une question d'image. Quelle image j'ai de moi ? Et ces filles-là qui n'ont pas de problème pour faire ça, eh bien voilà, dans ce cas-là, qu'elles tournent ces scènes-là. Mais que celles qui ne sont pas à l'aise avec ça et qui sont, à mon avis, la majorité des filles, ne soient pas... contrainte de manière pernicieuse, encore une fois, en leur disant ce serait bien si tu faisais ci, ce serait bien si tu faisais ça. Ce serait. Voilà.
Ils sont contraintes parce que c'est mieux payé. Donc, ce que vous préconiseriez, c'est que
c'est
ce soit payé.
C'est mieux payé, c'est que. C'est qu'elles auront. Elles travailleront plus.
Oui,
on fera plus appel à elles.
Ça revient même.
C'est ça, ouais.
Donc, ce que vous préconiseriez, c'est quoi ? C'est des barèmes, une convention collective
J'en sais rien. Moi, j'en mets quasiment pas dans mes films, par exemple, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, et que les quelques fois où j'en mets, c'est avec des filles qui sont super à l'aise avec ça. Donc, c'est juste arrêter de faire tout le temps la même chose. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il existe des scènes de sodomie dans les films. Ce qui me pose problème, c'est qu'il y a que ça. Il y a que ça, c'est tout le temps les mêmes positions, c'est tout le temps les mêmes pratiques, ça se termine tout le temps de la même manière par une éjaculation faciale. C'est ça qui est problématique. C'est pas le fait que ces pratiques-là soient problématiques. Ce qui est problématique, c'est qu'il n'y ait que ça. Pratique, dans le porno mainstream, encore une fois, il y a d'autres pornographies. Mais sur ces représentations-là, avec son dominante, c'est ces pratiques-là qui ressortent tout le temps. Ouais. Et c'est ça qui pose problème.
Oui, moi, je pense aussi, je suis complètement d'accord. Et on oublie souvent le plaisir, le désir, la liberté des femmes. Et si on doit parler de porno alternatif, que ce soit pour les actrices et pour la consommatrice...
C'est pas la même chose, encore une fois. J'ai l'impression que vous les mettez dans le même sac, mais il y a d'une part...
Ça va ensemble. Si, parce que ça va...
Ouais, alors, en quoi ça va ensemble?
À partir du moment où un réalisateur ou une réalisatrice essaye de faire quelque chose de différent, quelque part d'éthique, ça passe aussi bien par le scénario, par les représentations qui donne à voir, que par les conditions de travail des personnes qui l'emploient.
Voilà.
Donc, pour moi, ça va intrinsèquement ensemble. Enfin,
l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas produire dans des conditions non éthiques un film éthique.
Je trouverais très hypocrite de faire un produit fini qui soit alternatif, tout en sachant que les conditions de fabrication de cet objet n'ont pas été éthiques. Pour moi, ça va... clairement ensemble, quoi.
Ah oui, complètement. Ça se verra, de toute façon, à l'image. Si on voit une actrice qui tire la tronche, ça n'a aucun intérêt.
Ça peut être dans le rôle de tirer la tronche. On peut lui dire, dans ton rôle, tu dois tirer la tronche.
Oui, mais...
C'est ça, le cinéma.
C'est faire tirer la tronche à des
actrices qui n'ont pas envie de tirer la tronche, mais qui doivent tirer la tronche.
Ce que je veux dire, c'est que si on impose des pratiques à une actrice qu'elle ne souhaite pas plus que ça, ou qu'elle fait uniquement pour l'argent, ou voilà, qu'elle se sent contrainte de le faire alors que franchement, elle ne veut pas, à l'image, ça va être absolument différent que si elle est bien, si elle est radieuse, si elle regarde droit dans les yeux son ou sa partenaire, on a des belles surprises aussi, on a des orgasmes, on a des éjaculations féminines qui arrivent quand elles sont vraiment super bien et super à l'aise, et il y a des choses qui sont positives qui arrivent quand même pendant ces scènes de sexe. Si on voit une actrice qui fait c'est horrible déjà pour l'image que ça donne... c'est affreux pour tout le monde. C'est vraiment affreux.
Alors, je disais, donc, vous avez réalisé ce documentaire, mais vous êtes aussi réalisatrice depuis un certain temps, donc avec des films dans lesquels, même si vous êtes un peu gaufré au début, comme vous disiez...
Il faut tâter aussi. Hein. J'ai commencé à réaliser à 19 ans, j'en ai 35, je ne réalise plus de la même manière maintenant.
Vous êtes un peu différent. Alors, je voudrais qu'on voit un extrait de votre avant-dernier film, qui s'appelle Pulsion. Pulsion, c'est l'histoire d'une série de gens qui ont tous des problèmes sexuels, d'une nature différente, et puis qui participent à une espèce de séminaire,
de thérapie de groupe,
dans lequel ils vont essayer de résoudre leurs problèmes, ce qui est à la fois l'occasion de montrer des actes sexuels et puis les problèmes qu'ils ont dans la réalisation de leurs actes sexuels. Et vous avez filmé une scène, alors qui, je dois dire, me semble à moi une transgression absolue dans les codes du porno, c'est-à-dire une panne sexuelle. Un type qui a une panne sexuelle. Là, alors, vous vous en souvenez plus, mais on va regarder l'image.
Non, je peux pas. J'y arrive pas. Quand on est que tous les deux, ça fonctionne pas.
Eh ben merci, c'est super flatteur pour moi. En gros, tu préfères être avec une autre.
Mais non, c'est pas ça le problème. Je préfère être avec toi, mais j'ai besoin de te voir dans les bras d'un autre. Tu sais que c'est mon truc de te mater.
Et si je te faisais un petit show et que je te laissais mater, est-ce que ça fonctionnerait?
Non, je crois pas.
Tu commences à m'emmerder avec tes histoires. Si je te suffis pas, t'as qu'à aller voir ailleurs. Mais moi, me faire prendre par des types que je connais pas sous prétexte que ça te fait bander, j'en peux plus. J'aimerais juste de temps en temps faire l'amour normalement avec mon mari.
Lolo revient.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette scène?
Non, mais là, c'est presque autobiographique. C'est un vrai couple.
C'est un vrai couple dans la vie.
Ils sont vraiment mariés, ils sont vraiment très amoureux, ils sont vraiment. Je crois qu'il est effectivement vraiment dans la vraie vie excité par le fait de l'avoir avec d'autres personnes. Donc c'était un peu une private joke entre nous.
C'est une blague, mais en même temps, ça dit quelque chose.
Effectivement, c'est pas...
Le fait de filmer ça, vous voulez dire quelque chose, non?
En fait, c'est Ce film, c'est l'histoire d'une femme qui est atteinte du syndrome de l'excitation génitale persistante, qui est une maladie assez rare, touche des femmes qui ont des orgasmes à répétition sans pouvoir les contrôler dans des situations absolument non sexuelles.
C'est
une autre. Et donc, ils se retrouvent dans une communauté comme ça, dans une clinique privée. Bon, c'est un film qui est une petite comédie, voilà, qui est un peu hommage au film 70s qui pouvait se tourner dans la pornographie française à cette époque-là. Mais l'idée, c'est de montrer que la sexualité, elle n'est pas évidente, qu'elle n'est pas forcément tout le temps dans la performance, que tout n'est pas forcément facile, que pour elle, qui a des orgasmes à répétition, sa vie sociale, c'est un cauchemar, parce qu'elle ne peut plus aller bosser, elle ne peut plus prendre des transports. Enfin, c'est juste une façon de montrer que le sexe n'est pas si facile que ça, quoi.
Ah, c'est drôle que vous n'assumiez pas cette scène.
Je l'assume, elle me fait marrer parce que je les connais.
C'est la copine qui parle, moi j'interroge la réalisatrice.
Mais moi
je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est quand même culotté de montrer une panne sexuelle, quoi. Un type qui n'y arrive pas.
Ça m'arrive de faire des scènes où le garçon éjacule au milieu de la scène et où la scène d'amour continue. Où voilà, après l'éjaculation, il y a encore une vie, il se passe encore des choses et tout s'arrête pas là. Ça m'arrive de montrer des petites défaillances. Ça m'est déjà arrivé aussi dans un film de montrer une scène où ils s'apprêtaient à avoir un rapport anal et ça ne marche pas, alors ils abandonnent. Ça m'arrive de représenter.
Vous dites ça m'arrive, mais est-ce que c'est important pour vous de montrer ça, justement, pour montrer une image d'une sexualité, je dirais, plus ordinaire, plus quotidienne, avec des troubles, des problèmes.
Je filme pas que des représentations déceptives de la sexualité, hein, mais parfois il se passe des choses joyeuses aussi. Mais oui, non, j'aime bien humaniser la chose, bien sûr.
Est-ce que un alter porno doit, dans le cahier des charges, doit être excitant pour les spectateurs?
Alors il n'y a pas de cahier des charges de l'alter porno. Il y a plein de pornographies différentes.
Cahier des charges implicite, on va dire.
Maintenant.
Est-ce que quand vous faites un film, vous dites bon, je veux faire un film différent, ok, mais je veux aussi faire un film excitant.
C'est quand même plus sympa, ouais. C'est quand même plus sympa. Maintenant, je ne crois pas que ce soit une obligation, dans le sens où j'ai vu des trucs des courts-métrages assez artistiques ou assez engagés ou assez machins, qui n'étaient pas forcément, qui utilisaient la pornographie comme support, mais qui n'étaient pas forcément excitants. Maintenant, à mon sens, je ne demande pas aux gens de se masturber ou de faire l'amour impérativement devant mes films.
Est-ce que vous y pensez?
Pas du tout excitant, je trouve ça.
Est-ce que vous pensez en tournant? Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de scènes qui soient masturbatoires.
Non. Ça, je ne pense jamais à ça en ces termes. En revanche, si on me dit tous tes films, aucun de tes films ne m'a excité, je trouverais ça un peu dommage. Enfin, pour moi, c'est un peu comme un film. Comme un film comique, si on dit « Ah ben non, à aucun moment j'ai rigolé », je dis pas aux gens qu'il faut consommer le film, qu'il faut impérativement se soulager devant le film, mais au moins qu'il y ait une petite ambiance excitante et qu'on se sente un petit peu...
Le parallèle avec les films comiques ne fonctionne pas tout à fait, parce que si je posais la question à un réalisateur de films comiques, il me dirait « Bah oui, si ça rigole pas, j'ai perdu, quoi. Si le spectateur rigole pas, j'ai perdu. »
Bah, j'ai envie de procurer une émotion. Ça, c'est sûr, une émotion d'ordre sexuel. Non, mais une émotion
d'ordre sexuel,
bien sûr.
Est-ce qu'un alter porno doit être excitant? Madame la spécialiste de l'alter porno, à Cosette.
Je suis la spécialiste de l'alter porno. Moi, je pense que oui, en fait. Donc, pour moi, c'est un peu l'objectif du porno. Donc, c'est là que je ne te rejoins pas tout à fait. Mais.
J'ai vu des trucs vraiment sympas.
Mais je ne m'excuse pas. Je suis très à l'aise avec ce que.
Vous pensez
que
oui?
C'est mon avis. Pour moi, c'est l'objectif. Mais après, ça veut
dire. C'est l'objectif ou c'est un des objectifs?
Ça fait partie des objectifs, oui, bien sûr. Maintenant, là où je te rejoins quand même, c'est que, par exemple, il y a plein de films pornographiques qui sont hyper arty, très recherchés dans l'esthétique, qui sont pas forcément, qui n'ont vraiment aucun rapport avec les objets masturbatoires classiques auxquels on peut penser quand on pense à de la pornographie, et que je trouve magnifiques.
Mais qui restent des films porno?
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait les choses qu'on va rechercher dans un film pornographique, on peut les ajuster en fonction du film aussi. Et là, par exemple, ce type de film-là, oui, il y a une notion d'excitation, bien sûr, puisque c'est ce, enfin, il me semble que ça fait partie du truc. Mais par exemple, il est tout à fait envisageable que l'aspect esthétique prenne le dessus et soit plus important pour la personne qui regarde.
Après, au-delà de l'aspect esthétique, moi, je pense par exemple à quelque chose de très précis, un court-métrage que j'avais vu en projection et qui était un court-métrage clairement pornographique et qui détournait un petit peu tous les codes. Et je me souviens, à la fin, il y avait une actrice qui avait fait une éjaculation faciale avec son lait maternel, avec ses seins, comme ça. Et on était tous hilares dans la salle, parce qu'évidemment, c'était un gros détournement des codes et que c'était drôle, et que c'était vraiment, vraiment drôle. Et c'était très assumé de la part et de la réalisatrice et de l'actrice et tout ça. Mais on n'était pas excités.
Oui,
mais pourtant, c'était clairement explicite et pornographique.
C'est un passage.
Dans un film qui est... Le porno, c'est quand même un super masturbatoire, faut pas se mentir non plus. Après, il y a d'autres choses qui apparaissent.
Complètement.
On peut voir, et dans les pornos alternatifs, en effet, penser plus la mise en scène, pourquoi pas, pourquoi pas se servir des richesses aussi du porno traditionnel. Enfin, il y a mille choses à faire. Après, un porno, c'est pour se masturber. Enfin, désolé, à la base, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on se masturbe pour autant, mais c'est la fonction première.
Ovidie n'est pas tout à fait d'accord.
Mais puis c'est le prolongement de plein de choses. Ouais. Enfin, les estampes japonaises, le Kamasutra, les photos porno ensuite, enfin, ça a toujours existé, c'est le prolongement de ça. Après, il y a plein de façons de traiter le porno et l'esthétisme, c'est... Ou alors, injecter du réel, je trouve ça bien aussi, parce que ce dont... Je me rends compte, moi, au niveau de ma génération, qu'on parle beaucoup plus facilement de porno, mais on ne parle pas d'intimité, en fait. Et de plaisir, c'est lié. Mm. Et là, je trouve ça bien, je n'ai pas vu ce film dont l'extrait a été diffusé, mais je trouve ça bien qu'on remette un peu du réel. Enfin, voilà, si le porno a peut-être un rôle à jouer aussi, parmi tous les autres, c'est aussi s'interroger sur la notion de plaisir, d'intimité. Finalement, on parle très difficilement de « voilà, j'ai fait ça hier avec telle personne, j'aime ça ». C'est pas vrai. Maintenant, on va peut-être oser dire « j'aime regarder du porno lesbien ». Et encore, ça dépend, c'est dans des certains
qui... Quand vous dites « on », c'est qui on, qui a du mal à parler d'intimité? Qui a du mal à parler de...
La société en général. Après, ma génération, je trouve qu'elle fait des progrès sur le... Peut-être dans un cercle aussi assez parisien. Je ne suis pas allée enquêter dans le fin fond de la Creuse. Mais
c'est
voilà.
C'est dommage, d'ailleurs.
Ouais, c'est dommage. Ouais. Mais pas exclu.
C'est pas trop tard.
C'est pas trop tard. Michel, tu devrais peut-être pas exclu.
Non, mais c'est vrai que finalement, on parle... On va dire « oui, je regarde du porno ». C'est même cool. Il y a un effet de mode à Paris, voilà, c'est comme ça devient une culture, c'est une sous-culture du web. C'est bien de dire, on regarde du porno.
Vous êtes en train de nous dire que ce qui est devenu tabou aujourd'hui, c'est le discours sur l'intimité.
Oui, finalement, ça, on n'en parle pas. On parle pas... D'ailleurs, amusant.
Je tombe de ma chaise, moi.
On parle plus d'un, on parle pas d'intimité, on parle pas de plaisir, on parle pas tant que ça de maladies sexuellement transmissibles. Enfin, tout ce qui est vraiment la réalité, on se tait là-dessus, ça reste tabou.
Et c'est vrai, si le porno a un rôle à jouer maintenant, je pense que c'est plus de... Le porno mainstream a quelque chose de très... peut filer des complexes, alimenter une espèce de culture de la performance qui est complètement, qui foire des sexualités, quoi. Donc si le porno peut avoir un rôle à jouer maintenant, je te rejoins, je pense que c'est à l'inverse pour décomplexer, quoi.
Quand on se pose la question de savoir si un porno doit être excitant, il y a un sujet dont on ne parle jamais, c'est le producteur. Tous vos films sont produits par Canal+. Canal+ vous fixe des objectifs. Parce que quand même, il y a une tradition, je suis désolé, non, mais il y a une tradition du porno sur Canal qui est, c'est un porno clairement masturbatoire et rien de plus.
En fait, Canal+, je leur dois beaucoup. Je leur dois beaucoup parce que c'est vraiment eux qui ont cru au développement d'une pornographie avec un point de vue féministe ou féminin, ou en tout cas le mien. Et c'est eux, dès le départ, qui ont dit aux producteurs, parce que j'ai travaillé avec divers producteurs, et qui ont dit « si, mais elle est bien cette petite ». Et c'est comme ça que c'est parti. « Si, elle a un discours vachement intéressant, laissez-la faire ». Et au début, on ne me laissait pas vraiment faire. Et puis au début, il y avait des différences entre le discours de Canal et les producteurs qui avaient quand même des objectifs derrière et qui devaient vendre du DVD, puisqu'il y avait encore des DVD à l'époque. Et petit à petit, on m'a laissé faire. On m'a dit « ok, très bien, mais laissez-la faire pour de vrai ». Et ils ont tenté. Et à partir du moment où ils m'ont laissé faire à 100%, ils se sont rendus compte déjà qu'on avait beaucoup plus d'audience quand je faisais des films qui me ressemblent moi, qui me plaisent à moi et où je mets toutes mes tripes, que finalement on attirait plus de monde parce que peut-être justement on représentait une sexualité un petit peu plus réelle. Mmh. Voilà. Mais aujourd'hui, non. Non, non. Je vois par exemple sur l'avant-dernier film que j'ai fait, le dernier film qui a été diffusé par Canal+, qui s'appelle Le Baiser, il n'y a pratiquement pas de scène hétérosexuelle dedans. Il y a une scène bisexuelle masculine dedans, ce qui n'était pas arrivé, je crois, pas sur Canal+.
Bisexuelle masculine, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, d'habitude, la bisexualité masculine n'est jamais représentée dans les films pornographiques hétérosexuels. Il y a le film gay, il y a le film bisexuel qui est une micro-niche, mais dans la pornographie mainstream hétéro, les scènes bisexuelles entre filles, ça c'est tout à fait accepté, mais entre hommes, ça reste toujours très méprisé, parce que c'est un milieu qui reste quand même assez homophobe, disons-le. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne voit presque pas. Je connais même des actrices qui refusent de tourner avec des acteurs bisexuels, des actrices, hein, pas que... Donc la preuve que ça peut venir aussi des femmes. Et je l'ai intégré dans le film. J'ai pas vraiment demandé l'autorisation non plus, je dois l'avouer sur le moment. Et ils m'ont soutenue. Et ils m'ont soutenue. Canal+ m'a soutenue là-dessus en disant, bon, c'est un peu radical, mais ils m'ont soutenue. Et c'est vrai que dans le film, il n'y a pratiquement pas de scène hétéro. Et c'est une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour entre deux filles. Et au final, en termes d'audience, c'est vrai, sur le coup, ils se sont dit, oh, ça nous fait peur. Mais en termes d'audience, ça a vraiment beaucoup, beaucoup marché. Ils étaient très fiers. Et même avant d'avoir les scores d'audience, ils avaient dit, même si on ne fait pas d'audience, on est fiers quand même. Donc non, là-dessus c'est vrai que je leur dois. Je leur dois beaucoup.
Alors, en quoi votre cinéma est différent ? La question est posé à un de vos comédiens, celui justement de Pulsion, Christophe Gire, qui joue le rôle principal dans Pulsion, qui est par ailleurs critique de cinéma, qui fait bien d'autres choses que d'être comédien. Donc la question lui a été posée dans une émission du site de Hors-Série. Hors-Série, site, comme vous le savez, adossé à Ré sur Image. Donc Christophe Gire, interrogé par Maya Neskovic, est questionné sur les films de Vili.
Où je joue le rôle d'un sexologue.
Un sexologue
qui essaye de trouver des solutions pour des couples ou des personnes seules qui ont des problèmes sexuels. C'est un peu c'est un sujet qui avait déjà été abordé dans le cinéma porno d'avant. Mmh. C'est un sujet de comédie typique. Les histoires de cliniques, les cliniques érotiques.
Ah oui, la mode des films de
les
docteurs.
Les films de cliniques les gens ont des problèmes, le film va s'évertuer à trouver des solutions pour résoudre les problèmes, ce qui fait autant de scènes pornographiques ensuite. Mmh. Donc Ovidie a remis ça au goût du jour à sa façon à elle, qui est d'ailleurs... par exemple, il n'y a pas... La première scène porno de son film... elle est filmée au bout de presque 20 minutes, ou 15 ou 18 minutes.
Ce qui est très long.
Il y a toute une mise en place, une présentation de tous les protagonistes. Donc c'est aussi une des singularités de son cinéma, qui n'attaque pas bille en tête. Je ne crois pas qu'elle soit comme ça obnubilée par l'idée de faire des scènes pornographiques. On pense toujours que c'est comme un roman harlequin, il y a des codes à respecter, qu'il faut une scène porno toutes les 10 minutes. Mmh. Elle se pose pas du tout ce genre de questions. C'est pour ça que c'est un des intérêts de son cinéma. Elle se donne beaucoup de liberté.
Docteur ?
Oui ?
C'est bon, tous les pensionnaires sont partis. Vous avez encore besoin de moi ?
Non, Olivia, c'est bien, merci. J'ai encore beaucoup de travail. À lundi, au cabinet.
À lundi, docteur.
Au revoir, mon petit.
Alors, Judith Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint, donc, Judith Bernard, site hors série, donc vous supervisez toutes ces émissions que propose le site depuis maintenant exactement un an. Pourquoi être allé interviewer Christophe, alors Bir, pas Gir, oui. Sur moi, Christophe Bir.
Donc ça, c'est une initiative de Maya Neskovic, hein, qui présente l'émission aux sources et qui a tendance à aller chercher des personnalités singulières, fortes, qui nous offrent un regard... sacrément intelligent. Moi, je trouve que Christophe Bir, il a une manière de parler du porno avec une innocence, un bonheur absolument transparent. Il nage dans le tabou avec élégance et simplicité. Je trouve ça... Et pour lui, c'est manifestement pas tabou. Donc pour nous, c'est une parole très précieuse. C'était l'occasion de parler du porno aussi sur Hors-Série, ce qu'on n'avait pas fait. Et tant qu'à faire, autant en parler avec quelqu'un qui est copieusement documenté. C'est quelqu'un qui a une culture absolument fascinante, hallucinante, et qui est un amateur véritable. Il en parle très bien, il dédramatise, et je trouve ça, c'est très précieux et délectable pour nous.
Vous regardez l'émission en régie depuis le début ?
Ouais. Alors oui, j'ai apprécié énormément de choses qui ont été dites, et le docu d'Ovidie que j'ai trouvé incroyablement honnête, subtil, nuancé. Et justement, pour aller dans la nuance, je trouve qu'il y a des trucs sur lesquels on peut peut-être revenir à propos de... Faut distinguer ce qui relève de la pornographie et les usages qui sont faits dans l'imaginaire collectif et ce qui va distiller. La pornographie, quand même, faut rappeler que c'est un genre qui a pour vocation de mettre en spectacle le sexe. Et donc, le mot-clé, c'est spectacle, c'est voir, donner à voir. Donc, bien sûr, des fellations, parce que c'est un geste qui se voit. Bien sûr, des éjaculations faciales, puisque c'est l'occasion de donner à voir la jouissance, le sperme et le visage. Alors après, on va dire que ça produit des injonctions, la dictature de la fellation et les jacques faciales comme signe de la domination masculine. Mais l'imaginaire a fait le tri, parce qu'il y a aussi le cunnilingus. Dans le porno, il y a aussi une représentation.
Beaucoup
moins, mais n'empêche qu'il est là. Et il y a aussi la bandaison spectaculaire et durable qui devient aussi une injonction pour les hommes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la société, j'ai l'impression que le règne du patriarcat a fait qu'on a récupéré de la pornographie que ce qui va dans le sens de l'aliénation des femmes, du maintien des femmes dans la position d'objet. Mais ça, c'est des phénomènes d'imaginaire collectif. Je pense que le travail d'Ovidie a permis de le faire apparaître. Si aujourd'hui vous faites ce film « À quoi rêvent les jeunes filles », c'est une manière de constater que votre entreprise d'émancipation de la sexualité féminine, de libération du porno, d'un certain nombre d'exigences normatives, finalement se heurte à un tsunami en face, un tsunami culturel, imaginaire, implicite, qui est que de toute façon, les femmes restent dans la position de l'objet. Et ce sont les femmes qui vont incorporer vraiment les diktats, avec l'épilation intégrale devenue quasiment une norme. Moi, je suis hallucinée. Je peux comprendre dans les pornos qu'on veuille de l'épilation, puisqu'il s'agit de voir. Alors, on va aller au bout du spectacle. Sauf qu'il y a l'épilation intégrale. Et ce que je découvre dans votre docu, c'est le phénomène des nymphoplasties, des opérations chirurgicales de modification du sexe des femmes. Donc, on est en train de dire aux femmes, en gros, bienvenue dans la sexualité et la jouissance. Venez avec nous, on va s'éclater. Sauf que, surtout, il faut récuser votre nature féminine. Pas de poils, rien qui dépasse, et ça raconte quelque chose sur l'imaginaire qui environne l'industrie du porno, qui de toute façon ne va récupérer, me semble-t-il, que ce qui confirme l'oppression des femmes ou leur statut d'objet.
Elle a bien regardé le film ?
Oui, c'est ça. Manifestement, oui. Mais oui, c'est ce qui est intéressant par rapport à ce qui est donné à voir et ce qui doit rester discret, c'est intéressant justement cette histoire de nymphoplastie. Ouais. Chez les femmes, ça doit rester discret. On doit raboter les petites lèvres pour que ça reste bien à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait de sécrétion, donc pas de choses qui sortent du sexe féminin. Pas de sang, alors là, il tomberait dans les pommes. Pas de sang, pas d'odorline, pas de rien. En général, c'est très souvent nettoyé dès qu'il y a un petit peu de sécrétion blanche sur les tournages. Voilà. Ouais, il faut que rien ne sorte, que tout soit bien à l'intérieur et qu'à côté de ça, il faut qu'il y ait le phallus imposant, flamboyant, massif. Mais ça, le complexe du vestiaire et de la grosse bite, c'est quelque chose qui est au-delà du porno. Quoi. C'est quelque chose qui est très présent dans la société, qui est au-delà de ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette stricte opposition entre ce qu'il faut voir, surtout ce qui est imposant, et ce qui doit rester bien sagement à l'intérieur.
Oui. Et donc, quelque chose de la jouissance féminine est resté, au fond, complètement interdit et inassumable, quoi. C'est quand même très problématique sur là où on en est aujourd'hui de l'émancipation.
Mais chez les femmes, on ne voit pas parce que vous savez bien qu'on est cérébral,
Mais ce qui veut dire que sur vos propres tournages, vous avez fait attention à pas... Justement, par exemple, nettoyer les sécrétions si des sécrétions apparaissent.
Ouais, quand ça, jamais je vais arriver avec ma lingette, non, mais j'aime bien filmer, par exemple, les éjaculations féminines. Je trouve ça chouette. Je trouve ça. Alors, si elles viennent, tant mieux. Et si elles viennent pas, je vais pas leur dire si, vas-y, on va travailler au corps entre guillemets pendant des heures pour que ça arrive. Non, mais il y a des choses comme ça que je trouve. Que je trouve chouette. Et puis
moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose dans cette lignée là c'est que on a une femme clairement qui est sexualisée, qui est objetisée. On sait comment exciter un homme avec certaines positions, certains codes. L'inverse est moins vrai. Ce serait ça aussi à inventer, un homme qu'on pourrait voir dans une certaine position et ça nous exciterait, et ça n'existe pas, enfin vraiment. D'ailleurs, c'est des questions qui se posent avec Stéphane Desaulnois qui a créé le tag parfait. On s'interroge sur le sexe du futur, tous ces casques réalité augmenté, sexe augmenté, comment on crée un scénario où ce serait la femme qui regarde
vrai et qui serait donc qui interagirait avec un personnage inventé. Comment on trouve des codes, même juste visuels, pour exciter la femme, sachant qu'elle n'est habituée que aux codes masculins, voilà, qui ne sont pas adressés à elle.
Vaste question.
Et sachant que toutes n'ont pas les mêmes désirs non plus.
Aussi, et les sachant qu'évidemment, il y a mille particularités au-delà de ça.
Moi, je voudrais juste rebondir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux pratiques. Et en fait, je ne sais pas si vous aviez vraiment voulu associer certaines pratiques à une image de domination masculine, mais en fait, à un moment donné, vous avez parlé d'éjaculation faciale et je trouve embêtant en fait, d'associer certaines pratiques à une domination. Parce qu'en fait, pour moi, le vrai problème, c'est pas tant ces pratiques-là, ni ces corps, ni la manière dont ils sont montrés, etc. Mais c'est plus le fait que c'est tout le temps la même chose qu'on nous montre, en fait. C'est vraiment l'omniprésence qui crée la norme, en fait. Et donc, je pense qu'une réalisatrice féministe peut parfaitement
filmer
tout un tas de vu comme un signe de souillure et dégradation de la femme parce que j'ai l'impression que pour l'instant c'est quand même un peu ça le fantasme je te salis toi la salope à la fin je te salis
et ben justement il est peut-être là le problème c'est qu'on essaye toujours de trouver une espèce de manière de d'aliéner alors que en réalité ça devrait enfin genre c'est vraiment prendre le problème dans le mauvais sens à mon avis parce que je suis absolument certaine qu'on peut filmer tout un tas de pratiques qui vont paraître totalement misogynes dans un certain contexte, de manière totalement féministe et...
Par exemple, non, mais je ne sais pas comment filmer une éjaculation faciale
de manière
féministe.
Mais moi, je ne suis pas réalisatrice de porno, donc je n'ai pas la réponse, quoi, mais...
Ovidie, réalisatrice.
Je peux répondre sur ce point. Sur, pas faciale, mais buccale, puisque j'en ai déjà filmé. Les quelques fois où j'en ai filmé, en général, déjà, l'éjaculation arrivait dans la continuité d'une fellation. C'est-à-dire, il n'y a pas la fellation, on fait le tour du propriétaire, hop devant, hop derrière, et puis à la fin, on se retire, plop, 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 je fais le tour et j'arrive et je t'éjacule en pleine poire. C'est pas, voilà, il y a quelque chose qui est justement peut-être plus naturel, entre guillemets, quand les quelques fellations buccales que j'ai pu filmer, c'était ça, c'était juste une fellation. Et puis à la fin, l'éjaculation.
Si c'est buccal, on voit rien. On voit pas l'éjaculation.
Bah parfois on la voit un peu, mais moi de toute façon je m'en fiche qu'on voit pas l'éjaculation. Puis très souvent je les filme pas les éjaculations. Parfois je les filme et je les monte pas et ça me gonfle.
C'est pas la finalité. Voilà,
non, c'est pas la finalité. Puis moi je suis pas, puis je suis égoïste un peu merde, c'est mes films donc je mets ce que je veux dedans. Et parfois ça m'emballe pas, je vois ça, je me dis hop. À quoi bon ? Et puis parfois je me dis ah oui tiens oui là c'est vrai, là c'est chouette, là il se passe un truc entre eux, là c'est. Je me souviens d'une scène d'éjaculation dans Le Baiser où on aurait dit des guirlandes de Noël. Il y avait le sexe, la main autour, et puis pouf, ça tournait tout autour comme ça. Et c'était assez graphique. Je me suis dit, tiens, oui, je vais le laisser, ça. C'est marrant. Mais sinon, je n'ai pas cette obsession-là de ce qu'on appelle le money shot dans le milieu
le
du porno.
Shot.
Le money shot, c'est ce qu'on appelle le cum shot, c'est-à-dire le moment d'éjaculation faciale.
Très bien, ça vous donne envie de creuser le...
Les guirlandes de Noël.
Pas les guirlandes de Noël.
Ça sur la porno pour Noël, oui.
Non, ça vous donne envie de creuser le thème
Moi, je pense que la pornographie, c'est un élément culturel massif. Donc, de toute façon, c'est normal qu'on en parle à hors-série. On sera probablement amené à en reparler, peut-être avec une autre journaliste, évidemment un autre invité. Mais pour moi, ça fait évidemment partie d'une manière de comprendre l'époque, ses évolutions, ses persistances.
Et on ne dit pas ça du tout parce que c'est le moment de se réabonner à hors-série.
Non, ça n'a rien à voir. Non, je ne sais pas même pourquoi vous me posez cette question. Du tout. Non, non.
Voilà, parce que par ailleurs, c'est le moment de se réabonner à hors-série.
Ça tombe bien que vous m'invitiez parce que justement, on arrive à la date anniversaire, le 30 juin, les premiers souscripteurs, ceux qui nous ont permis de naître, ont leur abonnement qui arrive à échéance. Et donc, on espère beaucoup qu'ils vont renouveler leur abonnement afin de nous permettre de vivre à nouveau de belles aventures, de belles émissions. Voilà.
Et on l'espère vraiment. Merci à toutes les trois. Merci Judith. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine.